VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. La police kényane a arrêté aujourd'hui un membre de l'opposition lors d'un raid spectaculaire mené à l'aube pour son implication dans l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple selon sa formation politique et des sources policières. Miguna est le deuxième membre de l'opposition après le député TJ Kajwang arrêté pour avoir participé mardi à la prestation de serment symbolique de M. Odinga qui refuse de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017 et estime que la victoire lui a été volée. Au Tchad, il y a 10 ans, disparaissait l'ancien porte-parole de l'opposition Ibni Oumar Mahamat Saleh. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa disparition. Anastasie Toudièche.
Une commémoration de 3 jours a débuté hier jeudi à N'Djamena, au siège du Parti pour les libertés et le développement, dont Ibni Oumar Mahamat Saleh était le fondateur. Les organisateurs ont voulu que l'événement soit aussi un hommage à toutes les personnes mortes pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit au Tchad. Mahamat Ahmad Alabo, secrétaire général adjoint du PLD, réclame la restitution du corps de l'ex-opposant. Ancien ministre de 2 présidents, dont Idriss Déby Itno, Ibni Oumar Mahamat Saleh a été démis de ses fonctions en 1994, puis est entré dans l'opposition. L'enquête de la commission mise en place par N'Djamena a conclu qu'Ibni Saleh a été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadiennes. Des conclusions que les autorités tchadiennes réfutent.
Au Cameroun, pas de nouvelles depuis l'extradition à Yaoundé du chef séparatiste anglophone Sissoko Ayuk Tabé. De nouveaux gendarmes camerounais ont été tués dans l'Ouest. Des précisions avec Raïssa Girondin.
Depuis leur arrestation au Nigeria le 5 janvier et leur extradition au Cameroun, on reste sans nouvelles du leader sécessionniste Sissoko Ayuk Tabé et d'une 40aine de partisans. Leurs avocats disent avoir essayé en vain de les rencontrer. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés se dit très préoccupé. Chris Anou, membre du mouvement indépendantiste, a affirmé que si lundi 5 février, Yaoundé n'a pas donné de preuves qu'ils sont vivants, il pourrait les considérer comme morts. 3 militaires camerounais et 1 civil ont été tués hier dans des incidents séparés dans le nord-ouest. Depuis la déclaration symbolique de l'indépendance des régions anglophones, plus d'une 20aine de soldats camerounais ont été tués. Issa Chiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement, reconnaît qu'il y a une escalade de la violence, dénonçant une campagne sur les réseaux sociaux où les séparatistes invitent les populations à résister et à tuer.
La campagne des élections locales en Guinée s'achève aujourd'hui avec, pour la première fois, une compétition a priori ouverte pour désigner les conseils municipaux dans un pays marqué par plus de 50 années de régime autoritaire. Quelques 5,9 millions d'électeurs sont convoqués dimanche à ce scrutin qui devait se tenir en 2010 mais a été constamment reporté depuis malgré de nombreuses manifestations de protestation, souvent meurtrière. Au Zimbabwe, l'opposante Joyce Mujuru et plusieurs de ses partisans ont été blessés hier lors de violences survenues en marge d'une réunion de campagne. L'ancienne vice-présidente passée à l'opposition a été visée par des jets de pierre devant un centre commercial à Harare. D'après son porte-parole, elle est sortie de sa voiture pour saluer la foule lorsque les gens de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, ont commencé à jeter des pierres. La présidente du Parti national populaire a été blessée au visage. 10 de ses partisans ont été blessés en tentant de la protéger. Des élections présidentielles et législatives sont prévues avant le mois de juillet. Bonne nouvelle en Afrique du Sud, la totalité des 955 mineurs piégés sous terre depuis mercredi soir à la suite d'une coupure d'électricité sont remontés à la surface sains et saufs. Ce matin à l'aube, a annoncé le propriétaire de la mine Sibanye Golds. L'incident n'a pas fait de mort. On déplore seulement quelques cas de déhydratation et de la pression artérielle élevée, mais rien de grave, a ajouté le porte-parole de la compagnie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, Fidel Castro Diaz-Balart, le fils aîné de Fidel Castro et neveu de l'actuel président cubain Raúl Castro s'est suicidé hier à l'âge de 68 ans après avoir lutté plusieurs mois contre un état profondément dépressif, a révélé La Havane. La nouvelle de ce suicide, également annoncée au journal télévisé du soir, a pris la population par surprise 15 mois seulement après la mort de son père, décédé le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. La Russie célèbre aujourd'hui les 75 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale et symbole de la fierté retrouvée et du patriotisme que veut incarner Vladimir Poutine en campagne pour un quatrième mandat. Un défilé militaire mobilisant environ 1500 soldats, véhicules blindés et aviation a eu lieu en matinée à Volgograd, le nom actuel de Stalingrad, ville du sud de la Russie où a eu lieu cette bataille et où le président russe est attendu dans la soirée. En 2015, le groupe État islamique annonçait la création de ce qu'il appelait la province du Khorasan, une zone couvrant certaines régions du Pakistan et de l'Afghanistan. En juin 2016, le chef de cette province, Hafez Saïd, a été tué dans une frappe américaine. Sa mort a constitué un sérieux revers pour le groupe qui tentait de s'y implanter, coûte que coûte, même en recrutant des enfants. Aïcha Tanzim de VOA a rencontré deux d'entre eux. Son reportage est relaté pour vous par Jacques Aristide.
Lal Mohammad est un ancien enfant soldat.
J'avais 9 ans quand j'étais avec eux et maintenant j'ai 12 ans. Ils nous montraient des vidéos sur la façon de se battre et de commettre des attentats suicides.
Pendant près de 2 ans, Lal Mohammad et son frère, Bakhti Ali, ont vécu et ont été formés par le Khorasan du groupe État islamique. Maintenant, ils sont de retour et tentent de se réadapter à une vie normale. Nous sommes chez eux dans le district d'Achin, de la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. Ils nous répondent sous l'œil attentif de leur père et du chef de la police locale. Les djihadistes sont entrés dans chacune des maisons de la localité pour recruter des adultes et des enfants. Bakhti Ali.
Les commandants du groupe nous montraient des vidéos des infidèles opprimant les musulmans. Ils nous disaient que la police locale et l'armée étaient leurs marionnettes, que nous avions besoin de faire le djihad contre eux.
Leur père Tawiz Khan s'est laissé convaincre par la propagande. Il a donc rejoint le Khorasan, emmenant ses fils avec lui.
J'avais environ 16 ans. Je n'avais pas cette barbe à l'époque. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas. Ils avaient l'habitude de dire à ses enfants que s'ils commettaient des attentats à suicide, tous leurs problèmes seraient terminés et ils iraient droit au paradis.
Ils sont passés par un apprentissage et style militaire, exercice physique et d'armement, utilisation de pistolets, de fusils d'assaut automatique AK-47, de bombes et de lance-roquettes. Le but ultime était de faire deux des kamikazes. Finalement, ils ont mis le frère cadet sur le champ de bataille, Lal Mohammad.
Les combattants de Daesh m'ont dit que nous allions rester derrière. Après, ils m'ont dit « tu dois aller devant et exploser ta ceinture explosive ».
Mais les djihadistes ont perdu ce combat et ont dû se retirer.
Nous avons vu beaucoup de gens se faire massacrer. Nous voulions aussi massacrer quelqu'un parce qu'on nous avait dit que cela nous apporterait de saintes récompenses de la part de Dieu.
Finalement, leur père ne pouvait plus le supporter. Ils ont fui avec d'autres hommes. Le père travaille maintenant avec la police qui offre une certaine protection. Mais il connaît le danger si le Khorasan arrive à reprendre le contrôle de la région. Si ces deux jeunes garçons sont maintenant en sécurité, personne ne sait ce qui est arrivé aux dizaines d'autres qui étaient dans les madrasas contrôlés par le groupe État islamique.
L'aviation israélienne a bombardé dans la nuit une position du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza après un tir de roquette en provenance de l'enclave palestinienne. Des sources des services de sécurité palestiniens ont indiqué que ce raid n'avait pas fait de victimes. Des combattants palestiniens basés dans la bande de Gaza ont tiré au moins 20 roquettes ou obus de mortiers depuis l'annonce le 6 décembre de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et puis les services américains de l'immigration ont formellement adopté une directive qui autorise leurs policiers à pénétrer directement dans les tribunaux aux États-Unis pour arrêter des personnes dont les papiers ne sont sont pas en règle. La police de l'immigration a justifié cette nouvelle mesure par l'opposition de nombreuses villes qui se revendiquent comme des sanctuaires, à savoir ces municipalités américaines qui refusent de coopérer avec les services de l'immigration pour arrêter les clandestins. Les groupes de défense des immigrés ont dénoncé ce texte. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Harry Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.